Cube Radio. Vous l'avez vu? Vous l'avez lu? Maintenant, entendez-le. Avec Antoine Joubert et Germain Goyer, le guide de l'auto. Cube Radio.
En ce week-end du Grand Prix de la Formule 1, bonjour et bienvenue au Guide de l'auto, 171e épisode. Salut Germain.
Bonjour Antoine.
Bon, alors, on va recevoir en deuxième partie d'émission Mathieu Roy qui va nous parler d'une grande nouvelle dans le monde technologique pour les voitures, soit la mise à jour de Apple CarPlay avec des changements qui sont quand même assez importants. On va discuter tout ça avec lui. Mais tout d'abord, écoute, je tente de peser mes mots.
En fait, je vais y aller d'abord avec les faits et je te laisse commenter pour la suite. Donc, la Ford Mustang Mach-E, ce multisegment électrique très populaire, eh bien, on a mis sur pause carrément la livraison des nouveaux véhicules. Donc, on a noté un problème de surchauffe au niveau des principaux contacteurs de la batterie à haute tension, donc pas la petite batterie, la grosse batterie, autrement dit. Et le constructeur n'a pas le choix que de suspendre en ce moment la livraison de nouvelles unités. Petite note quand même, là, donc les modèles 2021 et 2022 qui ont été produits là, jusqu'au 24 mai de cette année ne sont pas touchés. Donc, si vous avez un Mach-E à la maison, soyez sans crainte, vous n'aurez pas ce problème-là.
C'est
peut-être
ça, ouais.
D'autres problèmes, mais bon, ça, c'est une autre histoire. Donc, voilà. Donc, ce sera à suivre dans les prochaines semaines. Il y a un rappel aussi qui sera émis par le manufacturier, forcément. Donc, voilà.
La liste de rappels du Mustang Mach-E, je sais pas. J'essayais de m'imaginer un véhicule en carrière plus problématique, que j'ai connu plus problématique que le Mustang Mach-E depuis le début de sa carrière.
Puis on comprend que c'est une nouvelle technologie, que c'est une nouvelle plateforme, que tout est nouveau, mais c'est pas la raison pour que ce soit une guenille comme ça, là.
C'est vraiment un taco, c'est vraiment un véhicule à problème. Et j'ai un peu cette gêne d'avoir placé ce véhicule-là au premier rang des véhicules électriques dans le guide de l'auto il y a 2 ans. Parce que lorsqu'il est arrivé, évidemment, quand on fait un guide de l'auto, on ne peut pas anticiper la fiabilité d'un produit.
On peut tester le véhicule dans sa forme comme on la teste et ça se résume à ça. On n'avait pas de repère ni de référence pour la fiabilité étant donné que tout était nouveau. Et c'est vrai que lorsque c'est débarqué sur le marché, avant que le véhicule connaisse un premier hiver et qu'il connaisse ses premiers ennuis, eh bien, la formule était assez convaincante.
Tu sais, c'est un beau produit, c'est une bonne idée. Ford a joué d'audace avec ça parce que, à ce que je sache, t'as pas encore un Chrysler ou un Chevrolet qui, à ce jour, a répondu à l'appel de Ford. Mm-hmm. Ça s'en vient, là. Mais je veux dire, Ford a quand même pris le lead du marché, si tu me permets l'expression, avec ce produit-là. Puis on n'aurait pas pu s'imaginer que ce soit à ce point problématique. Parce que tu dis, une technologie électrique, c'est pas ce qu'il y a de plus complexe, là.
Non.
C'est pas... Bon, mais on dirait que depuis quelques années, chaque fois que Ford sort un modèle, on multiplie les problèmes.
C'était le cas du Ford Explorer, le modèle 2020. De dernière génération. Là, c'était rappel après rappel après rappel.
Ah, puis problème tant que tu voudras, puis bon, c'est ça. Mais le Mustang Mach-E, bon, puis le Bronco aussi, on a énormément de problèmes. Mais le Mach-E, c'est vraiment une accumulation de problèmes majeurs qui font en sorte qu'il est impossible de recommander l'achat de ce produit-là. On peut apprécier ses performances, son rendement, son look, bon, tout ce que tu voudras, mais je ne toucherai pas à ça avec une perche de 100 pieds.
Et vois-tu ce qui est dommage, c'est que cette semaine, tu t'es permis un commentaire sur les réseaux sociaux en lien avec cette nouvelle-là.
Ouais.
Et forcément, étant donné qu'on souligne un grave problème avec un véhicule électrique. Là, la suspension des livraisons d'un modèle, c'est majeur, là, on s'entend. Ouais. Mais dès qu'on parle de problèmes de véhicules électriques, ben on se fait étiqueter comme étant anti-véhicule électrique. Ah, alors que ça n'a pourtant rien à voir. Là.
Non, peu importe. Moi, ça me dérange pas. Tu peux m'étiqueter ce que tu voudras.
Bien sûr.
Ce véhicule-là est un paquet de troubles. Je reçois justement via mes réseaux sociaux des messages de gens qui en ont acheté. Le véhicule est au concessionnaire depuis des semaines, parfois des mois. On ne sait pas quoi faire pour les réparer. Ce sont des encres à bateau. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Surtout quand tu as des mensualités de 800 ou 1000 $ par
voilà,
mois.
Voilà, parce que quand le véhicule est stationné chez le concessionnaire, ben il faut continuer de le payer. Là.
Fait que tu sais, on n'a pas les ressources pour les réparer. C'est une nouvelle technologie, entièrement nouvelle. Et moi, la seule chose que j'ai à dire, j'espère que ça ne sera pas la même chose avec le Lightning.
Ah oui,
parce que
là, on aura un volume encore plus grand. Ben, et la facture payée par le consommateur, elle aussi va être plus grande. Là. Quand on paye 100 000 là, pour un véhicule, on s'attend à avoir quelque chose d'intéressant en retour. Là. Puis ça va être des outils de travail aussi, là, le F-150 Lightning. Pense à une entreprise qui aura une flotte de 10,
non, 20, absolument. 100 Ça n'a pas le temps de briser. Là.
Ben non, absolument pas. Puis pas que des véhicules à essence, ça ne brise pas, mais au moins, on peut les réparer.
À la défense de Ford, par contre, on m'avait... Parce que j'ai assisté récemment au lancement du Ford F-150 Lightning. Et ce qu'on nous a dit, c'est que de la façon dont le véhicule avait été développé, il serait beaucoup plus facile de faire des mises à jour ou des réparations, même majeures, sur un F-150 versus un Mustang. Parce qu'on a un châssis indépendant. Parce que descendre la batterie, c'est 5 boulons. Puis, bon, évidemment, tu prends les précautions qu'il faut pour travailler sur un véhicule électrique. Mais c'est beaucoup plus simple d'accéder aux diverses pièces du groupe monopropulseur d'un F-150 Lightning que d'un Mustang Mach-E, qui visiblement est un véhicule qui a donné des sueurs froides puis des situations cauchemardesques à bien des ingénieurs parce que il fallait rentrer cette technologie-là dans un véhicule qui était beaucoup plus complexe au niveau de sa conception à la base.
Et maintenant, ça donne des sueurs froides aux consommateurs et aux techniciens en atelier de mécanique.
Et je t'apprends portrait ceci comme commentaire. Est-ce que chez Ford, on a mentionné qu'on utiliserait sur un second véhicule la plateforme du Mach-E jusqu'à maintenant?
Non, on a été assez discret de ce côté-là. Personnellement, je m'attendais à ce qu'on reprenne cette formule-là chez Lincoln le lendemain matin. Là, ouais. C'était pourtant une formule très simple, mais ça semble...
C'est évident que Lincoln s'en vient avec quelque chose, mais utiliser exactement ça à suivre? Donc, le Mustang Mach-E, oui, pour moi, c'est le pire véhicule électrique à acheter parce que c'est trop risqué en termes de fiabilité, malheureusement. J'ai jamais été fervent des produits Tesla pour leur qualité de fabrication, mais je me permets de te dire que j'irai aujourd'hui chercher un modèle Y avant un Mach-E. Et je te parle pas de la technologie puis du rendement, là, parce que Tesla a évidemment des avantages.
Juste pour la fiabilité du véhicule en général.
Puis c'est intéressant parce que on commence à les voir vieillir, les électriques.
Oui.
Tu sais, il y a de plus en plus d'électriques sur les routes et de plus en plus d'électriques qui doivent se faire entretenir, qui doivent se faire réparer. Puis là, on commence à voir les problèmes sortir. J'ai hâte de voir ça tantôt, comment on va travailler dans l'industrie pour réparer ça adéquatement. Mais le Mustang va faire travailler bien du monde.
Le guide de l'auto. Avec Antoine Joubert et Germain Goyer.
Antoine, la semaine dernière, je te parlais d'une berline compacte sportive. Eh bien, cette semaine, pour faire changement, je te parle d'une berline compacte sportive, mais qui m'a un peu moins charmé. C'est le Hyundai Elantra dans sa version N. Premièrement, je la trouve horrible.
C'est pas joli.
Je sais qu'on a parlé en mal du look de la Honda Civic Type R, pas celle qu'on va nous dévoiler sous peu, mais l'ancien modèle, que c'était très ostentatoire. Ouais. Mais là, la Elantra N, dans mes yeux, ça ne passe absolument pas. En fait, je trouve ça tout simplement quétaine. Le véhicule que je conduisais était peint bleu pâle. Il y a des accents rouges un peu partout. La calandre, je trouve ça hideux. On a un aileron sur la valise en arrière. Franchement...
T'as pas aimé ça, hein?
En fait, à la conduite, c'est pas vilain. Parce que, bon, on a quand même un moteur turbo-compressé de 2 litres. On a 276 chevaux sous le pied droit.
Bon, c'est ça c'est ma question.
Oui.
As-tu l'impression d'avoir 276 chevaux? As-tu l'impression d'avoir 50 chevaux de plus qu'avec une GLI?
Écoute, 50 de plus, je te dirais que non. Mais là où le bas blesse, pour moi, c'est dans la maîtrise de cette puissance-là.
Parce que, coupe.
Ben oui, exactement. Ouais. Parce que dans une GLI, on va avoir, on va bien maîtriser cette puissance-là qui est acheminée à l'essieu avant. Je sais que dans le cas de la WRX que je conduisais la semaine passée, ben là, c'était un peu plus facile parce que c'est réparti de manière un peu plus équitable.
Ouais.
Mais là, j'ai trouvé que c'était peut-être un peu trop pour le train avant de l'Elantra. On n'arrivait pas à tout maîtriser ça. Le véhicule, en bon français, se garoche de tout bord, tout côté, dès qu'on lui en demande un peu. Alors non, on n'a pas atteint ce niveau-là que Honda a pu avoir avec la Honda Civic SI, la Tipper, ou même chez Volkswagen avec la GLI. Là.
Mais, tu sais, avec la Tipper d'ancienne génération...
Oui, Honda, il y en avait de l'effet de couple, mais...
Mais très léger.
Mais très léger.
Et très léger, et pour une voiture de 300 chevaux,
c'est encore
extraordinaire.
Oui, c'est encore une coche de plus que l'Elantra N, et on arrivait à le maîtriser, là, et c'était très, très chic, là.
Moi, je me souviens d'une certaine Cadillac Seville STS avec un V8 Nordstar de 300 chevaux.
Ouais, c'est...
L'effet de couple là-dedans, c'était épouvantable.
Ouais, c'est pas génial.
Il y a des voitures qui ont passé à l'histoire pour leur effet de couple. L'Altima.
Des V8 traction, c'est pas génial. Là.
Mais l'Altima V6, ouais,
avec le 3.5,
la Saab 9.3 Wiggin, bon, c'est des voitures qui avaient un effet de couple épouvantable. Mais bref.
Pour revenir à l'Elantra N, oui, c'est une voiture. Bon, on ne s'ennuie pas là, au volant de cette voiture-là. Ça demeure agréable, mais quand on regarde ses concurrentes, qui, elles, sont très sérieuses, qui sont établies depuis longtemps, ben j'ai pas le choix de désavantager l'Elantra N de ce côté-là. Puis un petit mot en terminant, je te disais que j'étais pas un fan de son look, puis ça, c'est très subjectif, je l'admets, mais à l'intérieur, c'est pas plus chic non plus.
Ah ouais.
Les espèces d'animations avec des feux d'artifice, puis... Non, mais quand tu vas changer, par exemple, passer du mode confort au mode sport ou même au mode N, là, t'as des animations avec un feu, il manque juste un tir là, qui sort d'un anneau dans le centre de ton tableau de bord. Dans une GLI, là, on n'a pas ça, puis c'est bien correct comme ça. Alors, j'ai trouvé que c'était, excuse-moi l'expression, là, un peu douchebag comme véhicule.
Ah ouais.
C'était peut-être un peu de mauvais goût dans l'ensemble. Petite note, ça consomme presque rien. Je finis la semaine avec 8 litres au 100, ce qui est bonne moyenne. Là, je l'ai brassé un peu. J'ai fait un peu d'autoroute, un peu de ville. 8 litres au 100, là, ça a bien du bon sens. De ton côté, Antoine, tu nous présentais la semaine dernière un VUS Lexus. Et pour faire changement, toi aussi, tu nous présenteras cette semaine un VUS Lexus.
Oui, exactement. Le nouveau NX 350 dans sa version hybride, donc H. On sait qu'il y a 4 motorisations de disponibles désormais. Là, j'ai essayé l'hybride traditionnel.
Mais il y a l'hybride rechargeable que j'avais conduit d'ailleurs l'année dernière au lancement, juste un peu avant Noël.
Moi, écoute, ça a été une très, très belle surprise, ce véhicule-là, parce que je détestais l'ancienne génération. Je peux pas dire que la nouvelle génération, je la trouve belle, mais je la trouve plus élégante que par le passé. On a réussi à apporter des touches dans le design qui font en sorte que le véhicule a de l'air plus raffiné.
Et on l'a mieux habillé.
Ouais.
Il y a des ensembles qui lui vont beaucoup mieux. Là. On a éliminé beaucoup de chrome, là, ce qui est une bonne idée. Mais on l'a mieux, entre guillemets, packagé que c'était le cas auparavant.
Et lorsque tu prends place à bord et que tu réalises qu'on a éliminé tout ce qu'on avait avant de pavés tactiles, d'écrans complexes, de tout ça pour juste mettre quelque chose de simple et efficace. Écoute,
c'était la nouvelle de l'année, là.
On a visé dans le mille, ça fonctionne bien, c'est vraiment, vraiment génial. Les sièges sont super confortables, il y a plus d'espace. Le seul truc que je déplore, c'est que le siège du conducteur, comme dans bien des véhicules coréens, ne puisse pas s'abaisser suffisamment. Moi, j'ai la tête tout près du plafond. Là, puis
avec le toit ouvrant, j'imagine.
Oui, c'est ça. Ouais. Fait que ça, j'aurais aimé pouvoir abaisser l'assise un peu plus. Mais comportement, c'est génial. Ça va super bien. Il y a plus de puissance que par le passé aussi. On a réussi à maximiser la puissance de la version hybride. Mm-hmm. Alors ça, c'est un bon point. Puis écoute, j'ai maintenu mon essai sous la barre des 7 litres au 100. Là.
C'est très, très bon. On nous disait chez Lexus, là, au moment du lancement, que le RX était le véhicule le plus vendu de la famille Lexus, alors que le segment des VUS compacts, lui, est plus populaire, c'est-à-dire là où est présent le NX. Et on s'attendait à renverser, en quelque sorte, la vapeur avec cette nouvelle génération du NX.
Oui, parce que tu vas aller chercher des anciens acheteurs du RX avec ce nouveau NX-là. Mm-hmm. Les véhicules grossissent et les gens ont tendance peut-être à réduire ce qu'ils achètent en ce moment parce que, pas besoin de te dire qu'on va avoir des véhicules peut-être un peu plus compacts, un peu moins énergivores. Les besoins des gens changent aussi. Alors, si Lexus, dans le passé, a vendu énormément de RX parce que c'est longtemps tout ce qu'on a eu à offrir dans ce type de véhicule-là, le NX vient de prendre du galon et pas à peu près 4 versions. L'hybride rechargeable, bon, évidemment, pas besoin de te dire que il n'y a pas beaucoup d'inventaire chez les concessionnaires.
Non, il y a des délais d'attente
légers.
Parce qu'essentiellement, on a repris la technologie du RAV4 Prime, là, tout simplement.
Exactement. Puis l'autre bonne nouvelle, c'est que c'est un véhicule, fait intéressant, c'est que c'est un véhicule désormais assemblé au Canada.
Sauf l'hybride rechargeable.
Sauf l'hybride rechargeable, qui vient du côté du Japon.
Laissez faire votre clientèle. Entrez directement dans le guide de l'auto. Cube Radio.
Germain, je ne saurais pas te dire la date exacte à laquelle j'ai utilisé Apple CarPlay pour la première fois avec mon iPhone 3 ou je ne sais pas quoi.
Ça tombe bien, moi non plus.
Mais c'est sûr que c'est une application ou une technologie dont je ne pourrais plus me passer aujourd'hui. D'une part parce que je passe de voiture en voiture à tout bout de champ, puis c'est beaucoup plus simple de toujours utiliser juste ça que de s'adapter constamment à des nouvelles technologies.
Et mais certains systèmes qui sont plus intuitifs que d'autres en plus, là.
Écoute, j'avais une Lexus la semaine passée avec l'ancienne technologie parce qu'ils ont eu la bonne idée de nous écouter à un moment donné puis d'arriver avec un
nos
écran tactile.
Nos prières ont été exaucées.
C'est ça. Fait que le nouveau NX, c'est très bien, mais dans l'UX 2022, c'est encore un cauchemar avec un pavé tactile ou une souris ou appelle ça comme tu voudras. Mais Apple CarPlay va avoir droit à des modifications. Des fois, on fait des mises à jour. Là, on va avoir droit à des modifications. Puis, on en parle aujourd'hui avec Mathieu Roy, que vous connaissez, parce que il est à l'émission du Guide de l'auto chaque semaine maintenant. Salut, Mathieu.
Technologiquement vôtre, messieurs.
Oui, tout à fait.
2014, les premières fois où tu as pu essayer, toucher à Apple CarPlay, évidemment.
Dans quel véhicule?
Ça devait être dans une série de véhicules parce qu'il devait être compatible sur plusieurs marques en même temps parce que dans le fond, c'est que votre téléphone fournissait tout le système d'interface au véhicule parce que essentiellement et je pense qu'on va peut-être tous s'entendre là-dessus, ce que les fabricants nous proposent comme moyen de communication pour communiquer avec nous, donc sur les différents écrans tactiles, sur les différents...
Ou pas tactiles.
Oui, c'est ça. Je veux peser mes mots, là, mais c'est généralement assez une catastrophe au niveau là, de la simplicité puis de l'aisance dans la navigation. Moi-même, je suis quand même peut-être pas un natif de la technologie, mais je suis ça et j'en consomme beaucoup. Et c'est très difficile de dire « Wow, ça, là, sans ce véhicule-là, j'ai été impressionné par l'interface. » Alors, voyant peut-être certains problèmes et désirant que notre vie numérique nous suive en partie avec nous dans notre véhicule, qui fait partie de notre quotidien, eh bien...
Parce que l'idée, c'est de pas utiliser le téléphone en lui-même pendant qu'on est au volant.
Exactement. Donc, ayant cette problématique-là, les géants comme Apple et Google ont décidé de créer des interfaces, des espèces de couches qui vous permettent d'accéder à certaines options. Donc, Apple CarPlay chez Apple et Android Auto chez Google. Et c'est des visuels, c'est
Est-ce qu'il y en a d'autres?
Il y en a, mais c'est marginal.
Comme c'est-à-dire quoi?
Que, en bisounant un peu, t'es capable de trouver, par exemple, certains trucs. Et parfois, certains trucs qui sont illégaux parce qu'ils vont être capables de débarrer certaines applications, notamment... des applications comme YouTube ou encore comme Netflix, qui normalement devraient être inaccessibles pour ceux qui conduisent, bien sûr, parce que c'est de la vidéo, mais ça va durer qu'un temps. Éventuellement, dans les voitures de niveau 3 et 4, il sera possible de pouvoir écouter un peu de télé tout en se laissant conduire par le véhicule.
Antoine pourra écouter District 31 reprise.
En reprise.
Exactement.
Ouais,
ou faire du fitness avec
ça.
Le haut du corps, avec tes poids libres. Mais la grosse nouvelle, c'est que durant le Worldwide Developer Conference chez Apple, c'est une conférence qui, depuis des années, est destinée à ceux qui développent des applications pour les appareils Apple, que ce soit les ordinateurs, les tablettes, les téléphones. Mais le grand public s'y intéresse maintenant parce qu'il y a souvent des annonces qui sont faites là qui, finalement, vont retomber comme ça dans le marché et relativement rapidement. Ils ont annoncé une nouvelle génération du Apple CarPlay et moi, j'ai trouvé que c'était une des très grosses annonces de cette fameuse conférence des aux développeurs.
Est-ce que c'est une deuxième génération? Parce que j'ai perdu peut-être un peu le fil. Est-ce que depuis le début, on est essentiellement dans la même...
Il y a eu des changements.
Ouais.
Il y a eu des changements.
En fait, le Apple CarPlay, tout comme le Android Auto, mais c'est surtout vrai pour Apple CarPlay, ça se mettait à jour si votre téléphone se mettait à jour. Oui. Donc, vous n'aviez pas à faire une mise à jour dans le véhicule pour profiter des dernières fonctions du Apple CarPlay. C'est les constructeurs qui devaient faire des véhicules qui étaient compatibles, qui acceptaient cette compatibilité-là. Ça n'a pas été très compliqué parce qu'aujourd'hui, je veux dire, quelle voiture n'est pas compatible avec Apple CarPlay ou Android Auto? Il n'y en a que très peu. Et je pense, parenthèse, que se rendre incompatible avec ces systèmes-là, c'est peut-être se priver d'un marché potentiel parce que Apple nous disait que 78 % des gens vont seulement maintenant considérer une voiture qui est compatible avec ce genre de système-là.
Ouais.
Donc, si tu arrives sur le marché, tu dis non, nous autres, on a notre propre système, personne touche à ça, on n'accepte rien. Félicitations, j'aime votre audace.
Corrige-moi si je me trompe, Antoine, mais des véhicules de luxe ou des véhicules de haute performance souvent vont avoir tendance à ne pas en être équipés, justement. Peut-être un peu moins maintenant, mais ça en fait partie de ces manufacturiers. Tu sais, je prends l'exemple le premier qui me vient en tête, est-ce que l'Aston Martin DB, ce qu'on a conduit l'année dernière, avait Apple CarPlay? Je ne suis pas certain. Là.
Non, mais on exploite un vieux système de Mercedes complètement dépassé.
Donc, même si on paye un véhicule une fortune, on n'a pas nécessairement le dernier cri en matière de technologie. Puis là, le dernier cri Apple CarPlay 2014, c'est pas ce qu'il y a de plus moderne. Là.
Non, mais tu sais, moi, l'exemple que je peux te donner, peut-être un peu plus récent, c'est celui de Lucid Motors, où pour le moment, tu n'as ni Apple CarPlay, ni Android Auto, parce qu'ils ont développé leur propre système maison, qui, je dois l'admettre, fonctionne très bien.
Tesla aussi.
Et magnifiquement. Oui, Tesla, c'est un bel exemple. Tu sais, c'est très bien présenté. Lucid Motors, entre toi et moi, là, je veux pas dire qu'on copie le modèle d'affaires de Tesla, mais son président a travaillé là comme ingénieur pendant des années. On lance en premier lieu une grande berline qui va se vendre à tout près de 200 000 $ au maximum pour rivaliser avec la Model S. C'est pas le fruit du hasard. Donc, ne soyez pas étonnés si on reprend certaines thématiques. Alors, Lucid ne l'a pas, mais on nous a confirmé que on travaillait à pouvoir l'intégrer dans le véhicule parce que les gens le demandent.
Ah oui, on s'en privera pas longtemps.
C'est certain qu'un constructeur automobile, écoute, même Imperium Motors, qu'on ne peut plus appeler Imperium Motors parce que...
Pour
des raisons légales, ils n'ont plus le droit du nom Imperium au Canada. Alors, c'est IMC maintenant. Mais même
c'est pas Imperium
peu importe. Non, c'est ça.
Avec un accent aigu.
C'est ça. C'est pas Imperium Tobacco non plus.
Non, mais...
mais bref, même eux devraient avoir la compatibilité Apple CarPlay, pardon, alors qu'ils ne l'ont pas du côté de la Chine dans leur véhicule là-bas.
Ce serait un ajout pour le marché nord-américain.
Ça va être un ajout. C'est sûr qu'aujourd'hui, tu te passes difficilement d'applications comme celle-là.
C'est drôle parce que je m'étais assis dans une Lamborghini au Consumer Electronics Show. C'était pas une Lamborghini la plus récente, sauf qu'on l'avait intégrée à l'intérieur Alexa de Amazon.
Mazda a une compatibilité Alexa dans ces véhicules que personne utilise, entre toi et moi.
J'ai l'impression que non, effectivement.
Tu sais, il y a des trucs comme ça, tu fais bon.
C'est un feature supplémentaire.
Ça donne pas grand-chose d'avoir Spotify dans ta voiture si t'as Apple CarPlay, si t'as... Tu sais, il y a des trucs, il y a des redondances.
Il y a des redondances, c'est ça. Puis, en fait, c'était un des problèmes aussi, c'est que pour les Android Auto, pour les Apple CarPlay de ce monde, et concentrons-nous sur Apple CarPlay parce que c'est le cas qui nous occupe, on branche notre téléphone et là, dans notre écran principal, on a une espèce d'interface qui ressemble à quelque chose comme celle du iPad. Ça nous permet comme ça d'avoir des informations routières parce qu'on a Maps ou encore plan là, de Apple ou encore Google Maps. On a des applications liées à l'audio, c'est-à-dire Spotify, Apple Music, des logiciels de balado. Il y en a quelques-uns comme ça. Puis c'est quand même super simple d'utilisation, mais ça reste très ciblé à un seul écran parce que vous allez peut-être avoir un écran supplémentaire en haut ou derrière le volant et ces écrans-là ne vont pas bénéficier de cette espèce d'interface puis de cette espèce de normalisation du visuel. Exact. C'est pour ça que des fois, effectivement, il peut y avoir une redondance. Vous allez avoir l'interface du fabricant sur l'écran du haut qui va vous dire quelle pièce est en train de jouer, mais ça va être aussi l'information que vous allez avoir sur l'écran du bas via le téléphone, le Apple CarPlay. Et ce que Apple a annoncé dans sa nouvelle génération, et là, c'est vrai qu'il va avoir une cassure avec le passé, c'est que peu importe, évidemment, chez les constructeurs partenaires, mais peu importe le nombre d'écrans ou la taille des écrans que vous allez avoir dans votre véhicule, le Apple CarPlay va profiter de tous ces écrans-là pour vous donner une expérience qui va être similaire comme ça d'un bout à l'autre des écrans dans l'habitacle du véhicule.
Et ce qui veut dire que, par exemple, on pourrait carrément remplacer l'instrumentation comme l'odomètre, le tachymètre par un design Apple?
Ben, t'as remarqué que, et vous avez sans doute remarqué, lorsque vous voulez écouter la radio et que vous êtes en train d'utiliser Apple CarPlay...
Il faut sortir d'Apple CarPlay.
Si, par exemple, c'est via l'écran tactile que vous pouvez changer la température de l'habitacle, il faut sortir
encore
Apple.
Une fois. Ben, moi, je te donne un exemple bien simple. Dans mon propre véhicule, si je veux, mon propre véhicule affiche la température extérieure via l'écran central.
Ouais.
Si je branche Apple CarPlay, cette information-là disparaît. Je suis obligé de sortir d'Apple CarPlay pour savoir combien il fait dehors.
Alors, ce sera chose du passé avec le nouveau Apple CarPlay et ça, c'est majeur. Je le répète, c'est majeur parce que ça veut dire que les informations du véhicule vont pouvoir être lues par le téléphone et affiché en conséquence. Donc, effectivement, tu vas pouvoir avoir des informations liées à ta vitesse, à ta consommation d'essence ou de batterie. Tu vas pouvoir, toujours dans l'interface du Apple CarPlay, changer la température du véhicule, utiliser la radio, partir les bancs chauffants. Non seulement ça, si toi, tu vas avoir des chiffres, là, donc des chiffres numériques pour l'indication de ta vitesse, tu peux l'avoir, mais tu peux aussi avoir des bons vieux cadrans à aiguilles. Apple va t'offrir la possibilité de personnaliser ton affichage, tantôt avec un thème sombre ou encore plus clair, et y insérer des widgets, donc des espèces de micro-applications, ton calendrier, tu peux avoir ta musique que tu es en train d'écouter, donc certaines micro-applications, la météo, qui vont être affichées, et ça va être... Apple se spécialise dans
ça.
Ce
sera à l'utilisateur de choisir l'emplacement.
L'emplacement, la grosseur,
en même
certains
temps,
cas.
En même temps, moi, je me fais l'avocat du diable. Déjà que je ne suis pas un fan des instrumentations 100% numériques, parce que j'aime avoir... tu sais, moi, ça m'a toujours fasciné de voir comment on développait des cadrans, des indicateurs dans des véhicules. Il y a quelque chose de tangible d'avoir une vraie aiguille, un vrai cadran physique. On en a de moins en moins.
Un câble?
ça, on n'en a plus.
Non.
Mais il y a quelque chose d'intéressant là-dedans. On les voit disparaître peu à peu, sauf que les constructeurs automobiles se forcent quand même pour dessiner numériquement des cadrans et des indicateurs qu'on va mettre dans l'instrumentation. Là, s'il y a Apple CarPlay s'occupe de tout ça. Peu importe le véhicule que tu vas prendre, tu vas toujours avoir le même affichage. Donc, ça dépersonnalise le véhicule quand même.
Ça dépersonnalise en fonction du côté constructeur, mais du côté utilisateur, non, parce que tu vas pouvoir choisir. Ça me fait penser à... Ce que tu es en train de me raconter là, c'est exactement la même chose avec le monde des montres. Où là, tu avais des montres à aiguilles, c'était un travail d'horlogerie absolument incroyable. Ouais. Puis à un moment donné, t'es arrivé les montres numériques. Puis je suis d'accord avec toi, il y a quelque chose qui impose le respect quand on voit les vieux cadrans, tout ça. Mais que tu le veuilles ou non, c'est des écrans. Ouais. Tant qu'à en avoir, faites-moi donc quelque chose qui a de l'allure. Puis en ce moment, les constructeurs nous ont fait la démonstration qu'ils ont bien de la misère à faire des systèmes qu'on comprend bien, qui sont personnalisables et qui offrent aussi une espèce de... il faut que ça soit conséquent de véhicule en véhicule. Et là, ça sera la même expérience. Mais Apple travaille sur de l'interface depuis des années. Ils font bien ça. Ils sont pas parfaits, bien sûr, mais ils font bien ça. Ce qui veut dire que ton véhicule, si tu le changes par la suite, ben tu vas toujours avoir le même genre d'expérience et que c'est quelque chose que tout le monde connaît parce qu'on est sur nos téléphones, tantôt des téléphones Apple, téléphones Android, pour Android Auto. Donc, c'est des interfaces qui nous disent quelque chose. C'est une façon de naviguer, d'aller chercher de l'information ou de s'en faire donner aussi, ce qui est très important, d'une manière que l'on reconnaît. Donc, moi, je pense que ça va grandement faciliter l'utilisation des véhicules d'un point de vue utilisateur, bien sûr. Mais l'autre chose, c'est que je me dis, maintenant que Apple est là-dedans, qu'ils ont des partenaires majeurs, j'ai vraiment hâte de voir, tu sais, ça va être quoi l'intérêt des constructeurs de faire de bonnes interfaces dans leurs véhicules, sachant qu'en
même temps,
ils pourront pas te livrer un véhicule pas d'interface.
Impossible, impossible. Mais puis de toute façon, si à un moment donné le téléphone se débranche, peu importe, il faut qu'il y ait effectivement, faut que le constructeur ait quelque chose. Mais est-ce qu'ils vont avoir besoin de peaufiner au maximum tout ça? De toute façon, je trouve qu'ils sont déjà plutôt mauvais dans la confection de ces écrans-là.
Tu l'as vu avec moi lors d'une émission qu'on a tournée ensemble avec le Jeep Grand Wagoneer. Écoute, l'instrumentation qu'on a là-dedans, on a développé... Il y a 7 écrans dans le véhicule, mais on n'a pas trouvé le moyen de faire une instrumentation de base qui est visuellement intéressante. Ça a l'air cheap, carrément.
L'autre chose, c'est pas 7 écrans le problème. C'est comment est-ce qu'on peut se promener puis naviguer à travers ces 7 écrans-là.
De façon intuitive.
7 écrans qui ne sont pas nécessairement connectés non plus.
Il y a de l'information redondante.
Redondante, oui.
Puis, dans certains cas, c'est normal qu'il y en ait parce qu'il y a un écran qui est destiné aux passagers, donc c'est normal. Mais là où c'est pas normal, c'est quand tu as dans l'écran principal une fenêtre séparée en quatre avec la carte dans un des quatre carrés et que je dis à Antoine, mets-moi la carte plein écran. Antoine appuie sur la carte.
Non.
Il repèse dessus. Mais non, c'est un tout petit carré avec des flèches dans le coin de ce même petit carré qu'il faut appuyer.
Donc, c'est pas très intuitif.
Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Des fois, on va nous surcharger d'icônes, une douzaine d'icônes, alors que toi, tu es en train de conduire. Tu sais, 12. Attends.
Mathieu, je conduis la Kia EV6 cette semaine.
Et tu dois changer les menus
pour
manuellement.
Vrai, c'est mêlant. Il y en a trop d'applications.
Oui, ouais. Écoute, je pense que la EV6, c'est le même
écran qu'un Ioniq 5.
Bon. Ben pas tout à fait, parce que justement, tu dois changer les menus manuellement. C'est encore plus complexe.
Parce que c'est pas tout l'écran. Ouais. Ben, moi, je me souviens...
Pour le chauffage, là, tu veux mettre le chauffage au pied, c'est compliqué. Là.
Je pense que le chauffage...
Ouais, mais là, la bonne nouvelle, c'est qu'on est au mois de juin, Antoine.
mais c'est quand même... Je pense qu'il faut quand même que tu navigues dans deux... tu pèses une première fois, tu repèses une deuxième fois pour accéder à ce menu-là. Donc, techniquement, lorsque tu appuiera pour monter le chauffage, ça sera ta troisième pression, ce qui, à mon avis, est très limite, mais qui est beaucoup trop pour quelque chose d'aussi important que le chauffage. L'affichage tête haute, là, que j'avais voulu modifier sur la Ioniq 5, si je me rappelle bien, c'était 5 clics pour me rendre au menu de modification.
Le pire que j'ai vu, c'est un Ford Explorer, on recule de plusieurs années, là, les anciennes générations, où pour désactiver l'antipatinage, c'était 6 étapes.
Ben déjà, tu pouvais le désactiver, c'est pas si mal.
Oui, c'est ça. C'est ça.
Parce que maintenant, il y a des véhicules.
J'ai dit que c'était l'ancienne génération. Aujourd'hui, tu peux plus. Mais moi, ça m'amène à te poser une question. Parce que tu me parlais d'expérience utilisateur. Un des éléments que j'aime, notamment chez Audi, c'est le retour haptique que tu as lorsque tu appuies sur l'écran.
Oui.
Est-ce que c'est le véhicule en soi qui te donne ça ou est-ce que c'est l'application ou l'interface qui te donne ça?
Ça va être les deux. Premièrement, il faut que la tablette ait ce système de vibration.
Si le véhicule n'en est pas équipé, tu oublies ça.
Oublie ça. Mais c'est la façon, à mon avis, de créer les prochains écrans tactiles.
Ouais.
Ça devrait être comme ça. C'est-à-dire que quand on parle de retour haptique, il faut que les gens comprennent que lorsqu'on touche, par exemple, à une icône sur l'écran principal ou sur la tablette, on va avoir juste une petite vibration qui va nous faire savoir, sans qu'on ait à avoir les deux yeux sur la tablette, que oui, la touche a été pressée.
Donc, ça donne l'impression d'avoir un bouton physique, littéralement.
Oui, carrément. C'est juste que comme il n'y a pas de texture, tu ne peux pas savoir non, si c'est ça, directement c'est dessus. Ça. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en intégrant la nouvelle génération d'Apple CarPlay, bien sûr, Siri va être une très grosse partie de l'expérience.
Ah, oui.
Donc, en parlant à Siri, elle va pouvoir justement nous donner des informations. Et ce qui est intéressant, c'est que le développement puis les nouveautés que Siri va profiter aux utilisateurs de téléphones Apple, aux utilisateurs des AirPods de Apple, ouais. Ben ça va avoir des retombées directes sur notre utilisation dans la voiture. C'est-à-dire que les innovations qu'on va voir sur nos téléphones vont très souvent, très rapidement être mises à jour aussi dans notre système. Donc, pour vrai, là, être capable d'accéder aux données du véhicule, être capable d'avoir une infrastructure qui va être vraiment similaire sur d'un bout à l'autre de nos écrans et de véhicule en véhicule, moi, je vois ça quand même d'un très bon œil parce qu'en ce moment, les interfaces qu'on nous propose dans les véhicules, c'est pas loin de la catastrophe, là.
Est-ce que ça continue d'être gratuit?
Oui. Ben, en fait, ça te prend un téléphone à 2000$.
Oui, oui, oui.
C'est ça. Mais oui, ça te prend le iPhone qui va être tantôt branché, puis éventuellement, peut-être que ça sera aussi sans fil.
Bon, mais tu m'amènes sur un terrain intéressant. De plus en plus de véhicules ont la technologie Apple CarPlay sans fil que j'ai eu la chance de tester. Et malheureusement, jusqu'à maintenant, on ne retrouve pas le entre guillemets, la fiabilité du fil traditionnel. La connexion va être interrompue pour autant qu'on soit au téléphone ou qu'on écoute un balado, par exemple, ça va se désengager. Bref, c'est pas
comme
aussi...
celui du guide de l'auto.
Comme celui du guide de l'auto, bien entendu, parce qu'on n'écoute rien d'autre. Mais est-ce qu'on va arriver à atteindre un niveau où le sans-fil va être aussi fiable que le fil?
Ben écoute, c'est supposé, là. Mais
ça ne l'est pas en ce moment, tu es d'accord avec moi?
Ben, la vérité, c'est qu'en ce moment, j'ai entre les mains un téléphone qui peut probablement gérer toutes les opérations d'une navette spatiale. Et pourtant, quand je parle à du monde avec la voix, là, ben ça coupe encore, ça sonne cacane. Ça sonnait encore mieux quand on avait un fil. Et aux surprises, à la maison, moi, j'ai encore des prises RJ45, le gros fil bleu pour brancher dans mes ordinateurs ou dans mes appareils pour faire, par exemple, tantôt de la radio, parce que le signal par fil, ben il est encore plus stable, plus régulier, puis parfois plus rapide. Donc, j'aimerais ça que ça soit vraiment sans faille et parfait. Pour l'instant, ça ne l'est pas. Sortez votre vieux fil, puis branchez. Mais ça va être au profit d'avoir une expérience qui, à mon avis, va être beaucoup plus intéressante que ce que les constructeurs nous proposent. Donc, surveillez ça en 2023. Moi, j'ai été étonné, puis j'étais content de voir ça, en fait.
Et tu viens de répondre à ma prochaine question. Ça arrive quand, cette application-là? Quand est-ce que la mise à jour va se faire?
Oui, 2023. Évidemment, il y aura très certainement des groupuscules qui pourront les essayer avant. Et je me porterai volontaire, bien entendu, parce que j'ai un véhicule à la maison qui a ce genre d'écran-là que j'aimerais voir bénéficier d'une meilleure interface.
Et ce n'est pas ta Honda Odyssey?
Non, la Honda Odyssey, ça, c'était une catastrophe d'interfaçage. Et ça, je te jure, là, c'est incompréhensible. Non, simplement la Chevrolet Bolt, deux écrans, un écran derrière, je vais derrière le volant, puis un autre principal. Non. Très curieux de voir comment ils vont intégrer ça.
Les utilisateurs à la maison qui possèdent déjà un véhicule vont pouvoir l'utiliser.
Ils ont juste annoncé les constructeurs, pas encore les modèles comme tels. Fait que ça va être à surveiller aussi. Mais je vois ça d'un très bon œil.
Et je comprends que si ton véhicule n'est pas compatible ou XY raison, ben tu vas garder l'ancienne application puis c'est tout.
Exact. Qui, soit dit en passant, par exemple, dans mon véhicule, je préfère, bien entendu, Apple CarPlay, Android Auto et après... Je préfère utiliser l'interface que le constructeur a conçue.
Donc, la question à 100$, Android Auto ou Apple CarPlay?
Je pense
dans ton cas, dans une réponse très personnelle.
Ben, c'est sûr, ça va toujours dépendre du téléphone que j'essaye dans le moment présent. Mais j'avoue avoir une préférence. Quand on parle, d'expérience avec fil, j'ai légère avantage pour le Apple CarPlay.
Oui.
Mais tout juste derrière Android Auto.
Et pourquoi?
Je trouve qu'il est un peu plus rapide. J'aime la configuration aussi qu'on me propose. Les icônes sont faciles d'accès, sont gros. Il y a un petit quelque chose qui fait que c'est...
Ben,
c'est
visuellement, c'est facile.
Mais attention, parce que Android Auto va aussi recevoir une espèce de mise à jour, jeunesse bientôt.
On va pas rester là, les bras croisés, non. À regarder le train passer. Là.
Exact. Okay. Eux aussi vont nous proposer éventuellement, je pense, une nouvelle génération, mais ce que vous avez en ce moment va être appelé à changer, je crois même dans les prochaines semaines, si ce n'est les prochains mois là, pour les utilisateurs. Mais c'est hallucinant. Je pensais jamais parler pendant une vingtaine de minutes d'interface dans les véhicules parce que je pensais que...
Je confirme que tu l'as fait.
Ben, c'est ça, mais je pensais que c'était un peu nerd et geek, mais ce que je me rends compte, c'est que c'est peut-être pas un facteur d'achat pour un véhicule, mais ça peut faire en sorte que tu ne rachèteras pas tel ou tel véhicule parce que ton expérience d'utilisateur, oui, d'interface n'était pas geek, bon.
Bien sûr, mais ça touche tous les automobilistes.
Plus que jamais.
Voilà. Tu sais, on se souvient des radios, ce qu'on disait single din, double din à l'époque, donc les radios qui étaient plus minces ou les doubles que tu avais dans un véhicule, je pense, un véhicule de Monsieur Tout-le-Monde, c'était une Mazda protégée à l'époque. Bon, tu prenais le modèle de base, t'avais la petite radio, ouais, bien mince, puis tu prenais le gros modèle, t'avais le gros radio double. Dans le marché après-vente, si tu allais t'acheter un radio d'après-marché Pioneer ou peu, ouais, importe la marque, les boutons sur ces radios-là et l'utilisation de ces radios-là, c'était effrayant. Le seul qui était à peu près capable de faire un radio qui avait un peu de bon sens pour l'utilisation, c'était Alpine, mais qui
parce
avait
que
un design...
Les boutons, ouais, étaient trop petits.
C'est ingérable. Et okay, encore, dans certaines de mes vieilles voitures, j'ai des radios comme ça qu'on vendait dans les années 90 et qu'on peut encore acheter aujourd'hui. C'est épouvantable, la complexité d'utilisation de ça avec des touches qui sont grosses comme des têtes d'épingle et qui sont carrément incompréhensibles. Mais aujourd'hui, la beauté de la chose, c'est que c'est gros, c'est gigantesque, on peut faire ce qu'on veut. Tu sais, sky is the limit. Mais disons que c'est des questions que tu te posais pas à l'époque parce que, ouais, tu pouvais pas t'imaginer. Mm-hmm. C'était impossible de s'imaginer il y a 20 ans qu'on aurait dans une Mustang Mach-E, ouais, bon, qui
parce que
est stationné présentement.
Mais la tablette n'existait même pas. Enfin, comment pouvais-tu imaginer qu'on allait avoir une tablette dans un véhicule?
Écoute, ma télé était à peine plus grosse qu'une tablette aujourd'hui. Ouais. J'avais une télé 19 pouces dans le temps avec Shotgun. C'est ça. Bon.
On a essayé une QS de Mercedes, ouais, qui avait plus de pouces d'écran. Que nos téléviseurs de l'époque, oui, c'est vrai. Fait que, écoutez, qu'on le veuille ou non, les écrans sont là. Y aura toujours des puristes comme Antoine qui vont s'acheter des montres à aiguilles.
Oui.
Mais
puis là, vous ne voyez pas, mais il me regarde avec un certain dédain, Mathieu.
Oh non. Ouais, non, parce que je fais partie de ceux qui, même si je suis un enthousiaste technologique, je m'en suis jamais caché, je suis vraiment pas un fan des écrans dans les autos. Je pense que des boutons physiques configurables, à un moment donné, va peut-être être une espèce de solution intéressante parce que j'aime encore, tu sais, l'espèce de mémoire tactile. Puis là, je parle pas tactile comme un, mm-hmm, écran tactile, mais toucher un bouton, tourner un bouton, le presser. Mais
une manipulation que tu peux faire sans que les yeux soient impliqués.
Exact. Oui. Il y a quelque chose que j'aime bien, mais tu sais, je suis peut-être vieux jeu.
Non, parce que l'expérience physique, tu sais, on disait il y a pas si longtemps, tu activais le clignotant, par exemple, d'une Toyota, tu savais que c'était solide. T'activais le clignotant de certains modèles Chevrolet. Oh, le levier était plutôt lâche. Ouais, ouais. Tu te demandais si ça allait durer. T'activais le clignotant d'une Bentley. Ouais. T'avais l'impression qu'il était fait en or 24 carats. Ouais,
ce qui me fascine dans les voitures, c'est que la qualité des écrans n'est pas terrible. Là. C'est des écrans d'il y a quelques années, si, ouais, on compare à des iPads actuels. Là. Puis je me dis, tableau, hey, il y a des voitures là, de 80, presque 100 000 $.
Tu peux dire écran.
Écran. Puis là, tu t'approches de l'écran, puis tu fais ouais,
c'est ordinaire.
On voit un pixel, là, c'est pas très hi-fi.
Merci, Mathieu.
Hey, ça fait plaisir.
Merci beaucoup.
20 minutes plus. Hein,
oui, Mathieu. Oui, on, wow, a bien fait ça. À bientôt.
Antoine Joubert, Germain Goyer. Des vrais gars de char. Le guide de l'auto.
Antoine, concluons l'émission avec quelques questions des auditeurs. On a Richard qui nous écrit qu'il possède un Mazda CX-30 GT et qu'il aimerait l'échanger contre un Mazda CX-5 GT ou un Mazda CX-50 GT. Il hésite entre les deux. Il ne conduit pas hors route.
Bien, la première question, c'est pourquoi? Pourquoi on veut changer le CX-30? Est-ce que c'est parce qu'on veut plus d'espace? Si oui, est-ce qu'on en veut beaucoup plus ou un peu plus? Et ma réponse va être conséquentes selon cette question-là, tu sais, parce que dans le fond, on a dans les trois cas la même motorisation, moteur 2.5.
Oui.
À moins qu'on opte dans certains cas pour le moteur turbo, mais sinon, moteur 2.5. C'est trois variations sur un même thème, là. On partage, d'ailleurs, un CX-30, un CX-50, c'est le même châssis.
Mm-hmm.
Tu sais, ça te donne une idée. Donc, c'est vraiment une variation sur un même thème. C'est juste une question de savoir ce qu'on veut aller chercher comme...
C'est la notion
comme,
d'espace.
C'est là, la notion d'espace. Mais la conduite du CX-50 est quand même plus raffinée que celle du CX-5 qu'il y a quelques années dans le corps. Moi, je t'avoue que je préfère le CX-50 pour son... parce qu'il est plus moderne, tout mm-hmm. simplement, puis parce qu'on a corrigé quelques petits trucs ergonomiques que j'aime peut-être un peu moins dans le CX-5. Mais rendu là, honnêtement, un produit ou l'autre, c'est un bon choix. Puis sachez que le CX-30, on va vous en donner un bon prix. Donc, normalement, j'aurais dit, vous venez d'acheter un CX-30, vous voulez tout de suite changer. Ça se peut que ça vous coûte cher, mais en ce moment, c'est pas nécessairement le cas. Donc, ça peut être une bonne affaire.
Mais les taux d'intérêt vont être plus élevés ouais. qu'au moment où on a signé le bail ou le ouais. financement du CX-30. C'est ça. Ça, c'est un fait. Là.
C'est ça. Fait que peu importe, honnêtement, ce sont deux bons choix, mais le CX-50 a cet avantage d'offrir plus d'espace et une technologie intérieure plus moderne, puis un plus beau niveau de finition aussi.
On a Denis qui possède une Hyundai Ioniq rechargeable et le fabricant recommande une vidange d'huile tous les 6000 km. Or, il mentionne que sur les 6000 km, il parcourt environ 4000 km en mode électrique. Doit-il suivre quand même les entretiens recommandés par le fabricant?
C'est une excellente question parce que, évidemment, le 6000 km, c'est la même intervalle pour une Elantra, là.
Oui.
Moi, je pense qu'on peut étirer un peu.
Mais le moteur à essence va quand même embarquer à certains moments. Là. Donc, il y a une question de durée de vie de l'huile.
Oui, c'est ça.
Aussi,
je veux dire, si vos 6000 km sont faits en dedans de 2 mois, je pense qu'on peut étirer. S'ils sont faits en 6 mois, ben non, vous changez quand même parce qu'il y a quand même une période d'usure. Il faut minimalement faire 2 vidanges d'huile par année. Au printemps, automne.
Ouais. À la permutation des pneus.
C'est
là.
Ça. Bon, ça, c'est le minimum à faire. Que vous rouliez 3000 ou 30 000 km, là. Mais effectivement, que 6 000 km, je veux pas dire que c'est excessif, pas du tout, parce qu'au Québec, et surtout qu'Hyundai continue de rouler avec de l'huile minérale. Ça, c'est le truc qu'il faut savoir. C'est un des rares constructeurs qui met encore de l'huile minérale dans certains de ses véhicules. Donc, c'est d'autant plus important de respecter les intervalles de changement d'huile. Mais effectivement, si vous roulez que 2000 km avec votre moteur à essence, dans un court délai, ben, vous pouvez peut-être étirer un peu, là.
En terminant, on a Stéphane qui nous dit qu'après une attente de 6 mois, il a enfin reçu sa Volkswagen Golf GTI 2022. Après 2 semaines de possession et 1003 km parcourus, la voiture s'est retrouvée au concessionnaire en raison d'une fuite majeure. Il ne précise pas de la nature de la fuite. Malheureusement, il n'y a pas de pièces de rechange ni déchets anciens de prévu. Il se souvient bien qu'un de nos chroniqueurs, en l'occurrence toi, avait connu un problème majeur avec la Volkswagen GTI de 8e génération. Il commence à regretter son choix. Que doit-il faire?
Je trouve ça très intéressant parce que j'ai aussi reçu un commentaire d'une dame qui a eu un problème de fuite d'antigel avec sa GTI 2022 il y a quelques semaines à peine.
Ah.
Là, j'entends ça aussi. Moi, j'ai eu ce même problème-là.
C'est peut-être pas tous des cas isolés.
Alors, le problème que j'ai eu, moi, on m'a répondu que ça avait été causé par un choc que le véhicule avait subi, ce qui avait fait plier une durite du système de refroidissement et causer la fuite. Mais ça, c'est la réponse officielle qu'on m'a servie. Et là, si on commence à voir des problèmes comme ça se multiplier et qu'ils sont tous identiques, je fais certainement faire enquête, ben ça va répondre à la question que je me posais. Est-ce que effectivement le véhicule avait subi un choc ou est-ce que c'était un problème de conception? Parce que moi aussi, la voiture avait à peu près, quoi, 1500 km au compteur.
Elle était toute neuve.
Alors, c'est très intéressant et évidemment, soyez assurés que je vais faire un suivi à ce niveau-là.
Merci beaucoup, Antoine, et je te souhaite un excellent Grand Prix de Formule 1.
Absolument.
Cube Radio.